Vous êtes bien à l'écoute de Radio Grenouille sur le www.radiogrenouille.com ou bien sur la FM 88.8 évidemment. Et nous sommes en direct pour une émission spéciale que l'on vous annonce depuis une paire de jours sur notre site et sur nos ondes. Émission spéciale avec Malik Duranty. Bonjour Malik.
Bonjour à tous.
Bienvenue sur les ondes de Radio Grenouille, merci d'être avec nous, d'avoir accepté l'invitation. Tu es à Marseille pendant 3 jours, jusqu'à samedi, et tu es à Marseille à l'invitation de Peuple et Culture Marseille, une association représentée aujourd'hui sur les ondes avec nous dans le studio par Amandine Tamayo. Bonjour Amandine.
Bonjour.
Alors vous avez choisi d'inviter Malik Duranty depuis sa Martinique natale, et c'est là où tu vis, Malik, pour participer à une série de rencontres et différents événements autour de, on va dire, l'oraliture, on pourrait dire ça comme ça, pour
tout
résumer.
À fait.
Et également pour un travail avec un réalisateur, Jérémy
Gravaya,
qui aurait dû être avec nous, mais qui est en montage en ce moment même, et avec lequel Malik a travaillé, on va en parler tout à l'heure, un film qui va être diffusé demain, et c'est demain d'ailleurs le premier des événements avec Malik. Alors on va revenir au programme, mais d'abord je vais juste dire quelques mots pour te présenter, Malik, mais alors vraiment quelques mots. Hein. Donc on te présente généralement comme sociologue, comme enseignant, je crois que tu enseignes aussi, comme poète. Puisque tu as publié notamment un ouvrage, Hommage à Aimé Césaire, qui s'appelle Souffle Nègre, que tu as participé à l'écriture d'un livre collectif pour Haïti, réalisé après le séisme, que tu as préfacé divers ouvrages, dont Qui ne connaît pas Monsieur Domota, que tu apparais aussi dans l'anthologie Plume Rebelle. Tu écris des articles aussi, également, qu'on retrouve d'analyse sociétale, disons, qu'on retrouve sur Internet à diverses adresses. Et tu es un paroleur. Et c'est là que je voulais en venir aussi, parce que c'est autour de cette manière dont tu te définis que va tourner notre rencontre là sur les ondes. Okay. Alors, bienvenue à Marseille d'abord. Est-ce que tu connais Marseille, Malik ?
Pas vraiment, en fait. Marseille, je le connais à travers le club de foot, à travers justement tous les adhérents aux militants du club de... Je dis militants parce qu'ils sont toujours en train de militer dans les rues de Fort-de-France et d'ailleurs en Martinique et en Guadeloupe aussi,
ouais,
là où j'ai eu l'occasion
de
vivre. Et je connais Marseille à travers ça et puis à travers la télé, heureusement. Et aujourd'hui, un peu par les pas qui m'ont mené à traverser un peu la ville pour le projet avec Jérémy.
Donc, c'est ta première visite, c'est la première fois que tu marchais dans Marseille.
Ouais. Exactement, la première fois.
D'accord. Alors, la parole en créole, on a compris l'analogie avec le mot parole en français.
Oui.
Est-ce que, de manière un petit peu générale, tu pourrais nous définir ce que tu entends par ce mot et par cette pratique?
Ok, disons que la parole, en fait, c'est un dit réel de quelqu'un qui est ancré dans son actualité, avec une conscience du passé, en termes de rituel à mettre en place pour libérer cette parole, justement, et puis en termes de mise en perspective de quelque chose de collectif, quoi. Et donc la parole, c'est vraiment l'art du mot, l'art de l'image aussi, parce que le créole n'est effectivement pas une langue conceptuelle, comme diraient certains linguistes. C'est surtout une langue de l'image et surtout une langue du partage, et une langue d'un imaginaire très vaste qui laisse à chacun son imagination. Donc il y a la parole prononcée du paroleur, et puis il y a la parole écoutée de celui qui est là en présence. Qu'il soit visible ou invisible, qu'il soit un arbre, qu'il soit de la faune, de la flore, ou qu'il soit lui-même humain, et que la présence soit céleste aussi, pourquoi pas. La parole, c'est vraiment quelque chose de mystique, et qui traverse notre société comme étant un lien avec notre pays, avec notre terre, mais aussi un lien avec notre histoire, et un lien avec notre présence, et la nécessité surtout de transmettre à des choses qui sont fondamentales et essentielles. C'est-à-dire que On dit souvent, et c'est le nom d'une scène qu'on a montée avec quelques paroleurs en Martinique, « Parole la cafette », c'est-à-dire que la parole se fait de toutes les façons, de toute évidence. Elle se libère. Et dans un rapport, et là on va paraphraser, ou on va dire, on va citer quelqu'un comme Joby Bernabé qui dit en créole, c'est l'esprit corps qui met corps, et c'est l'esprit du corps qui est le maître du corps. Hein. Alors, à chacun de définir son esprit, à chacun de délimiter son corps et de pénétrer les corps en fait de notre existence. Et c'est ça la parole, voilà.
Alors tu viens de citer Joby Bernabé qui fêtait il n'y a pas si longtemps, on en parlait sur ses ondes, ses 40 ans de carrière, oui, je crois, ses 40 ans de scène, mm-hmm. homme de théâtre, homme de parole, poète, musicien. Mm-hmm. Et dans ce que tu disais également, on entend qu'il y a, tu parlais de la société martiniquaise, quand mm-hmm. tu disais notre société, dans laquelle il y a une tradition de la parole.
Oui, c'est-à-dire qu'on souvent l'un des traits caractéristiques en termes d'expression dans la société martiniquaise, mais aussi guadeloupéenne, hein, on va dire peut-être élargi aux sociétés caribéennes du sixième continent. Bon, la parole, c'est enfin ce trait caractéristique-là, c'est vraiment l'oralité, hein, l'oralité, le fait de pouvoir verbaliser toute chose. On passe souvent par la parole. Et une parole, en fait, qui oscille entre le son et le silence, parce qu'à la fois, il y a le mot, la phrase et son rythme, mais il y a aussi le corps, la posture du corps qui prend une importance déterminante. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous voyez, la parole a un peu de mal avec les chats internet, avec les Facebook, etc., sauf si elle est diffusée par vidéo, quoi. Mais la parole, c'est vraiment avant tout quelque chose qui a trait à la présence, le fait d'être ancré dans le présent, dans l'actuel, comme dirait Glissant. C'est cette nécessité de pouvoir aussi être dans le détour du langage, dans le détour du mot, parce que les Antillais sont... Vous voyez, on écoutait une chanson générique là, qui va être vite transformée par un entier, quoi. Il va pas retenir les paroles telles qu'elles ont été prononcées par le chanteur. Il va la chanter, mais avec ses paroles, il va s'approprier. Donc c'est la parole aussi, c'est l'appropriation de la parole et des langues. C'est surtout ça.
Et c'était la chanson de Laurent Brival qui parle mm-hmm. du fait, qui parle en créole, qui chante en créole du fait d'apprendre le français et d'être obligé d'apprendre le français à l'école. Je crois que Malik Duranty, dans ton propre itinéraire, le créole, parler le créole et donc prendre la parole et être paroleur, ça a été une vraie, comment dire, il y a eu une prise de conscience et ça a été quelque chose, tu as dû presque te battre aussi pour aller vers ça.
Ah ben oui, parce que vous savez, bon, la société martiniquaise, comme beaucoup de sociétés, hein, que je retrouve d'ailleurs même en France hexagonale, a été soumise au processus d'assimilation. Et souvent, l'ascension sociale était synonyme, en fait, d'apprentissage de la langue française et de sa maîtrise. Et donc, pendant longtemps, et jusqu'à la génération de ma mère, hein, je ne vais pas dire son nom pour pas la fâcher, et son âge non plus, mais jusqu'à la génération de ma mère, dans certaines familles, on demandait aux gens de pas parler le créole. On interdisait aux enfants de pratiquer le créole. Et c'est vrai que dans ma génération, va naître un réflexe, qui est le réflexe de, à partir du moment où la relation verse dans l'intime, et quand je dis l'intime, je vais expliquer après, elle verse dans l'intime, elle verse dans le proche, dans la proximité, et bien ça devient créole. Et des fois, même si elle est formulée morphologiquement en français, la consonance, la signification est à chercher en créole. Et pourquoi je dis intime, c'est parce que moi je considère que des peuples comme ceux de la Martinique qui vivent sur des terres insulaires ont un peu la dimension de peuple-famille, quoi. C'est-à-dire que on a tous entendu parler d'une autre famille, d'un tel ou d'un tel. Et on connaît tous un peu les filiations. Et ces filiations, finalement, finissent par se mélanger parce que le territoire est petit et qu'on n'est pas si nombreux que ça, finalement. Et donc, les familles sont souvent liées par des liens, tu vois, soit des mariages, soit cousins, cousines, etc. Et puis aussi une certaine proximité culturelle par rapport à l'organisation des quartiers qui font que dans les quartiers, en fait... j'ai des potes, des très bons copains de quartier, ben c'est mes cousins, quoi. Y a pas moyen que je les présente autrement que comme ouais, des cousins ouais. ou bien même comme des frères soldats. Bon, c'est mon soldat, c'est mon frère. Et tout ça, c'est une signification en termes de sur qui je peux me reposer, qui va comprendre aussi ma langue, parce que bon, je parle français, je parle créole, mais en quelque part, quand je partage un certain espace de vie, un certain temps de vie avec quelqu'un, je finis par créer un langage avec lui qui est très intime. Et dans lequel celui qui est extérieur a du mal à pénétrer, parce qu'on a beaucoup de mots qui peuvent résonner comme ça dans la langue, en créole. Par exemple, j'aime bien donner le terme bagaille, qu'on pourrait traduire comme chose ou comme truc en français, mais qui en réalité non, bagaille peut en fait signifier beaucoup de choses, mais aussi beaucoup de phénomènes, beaucoup de personnes. Et donc on peut avoir une phrase avec plus de 10 bagailles, et celui qui n'est pas au courant de ce bagaille là ou des bagailles qu'il y a dedans, et ben il aura du mal à comprendre la relation et le dialogue que j'ai avec quelqu'un. Et donc ça veut dire que j'aurai un dialogue intérieur, parce qu'il y a des mots qui ont une signification propre et uniquement pour moi, et ça c'est ma poétique, mais aussi j'aurai un dialogue intérieur avec l'autre, qui va finir par justement notre relation constellaire à constituer un intérieur avec moi. Donc, quand par exemple je suis en Martinique, je sais que je peux prononcer un certain nombre de choses, je peux utiliser un certain nombre de traits caractéristiques de notre imaginaire, qui font que il y aura que les Martiniquais vraiment qui vont saisir la subtilité de ce que je dis. Mais aussi, puisque bon, nous sommes quand même dans l'universel, nous sommes tous des hommes, nous avons un certain nombre de choses qui sont essentielles, même si on tend à les oublier. Je peux aussi faire référence à ce que j'appelle le non-non primaire, c'est-à-dire l'essentiel des essentiels, qui fera que n'importe quel homme, dans n'importe quelle société, n'importe quel peuple, n'importe quelle contrée, il va vibrer sur un certain nombre de choses, comme la respiration, comme la marche, comme le regard, comme la main tendue, comme l'histoire du cœur et sa relation avec les sentiments, etc. Donc, toutes ces choses-là, en fait, c'est comme tu disais, effectivement, prendre conscience de l'environnement et prendre conscience de soi et de sa diffusion dans cet environnement-là.
Dans ce que tu dis, tu parlais de Joby Bernabé et tu nous disais en antenne tout à l'heure que tu l'as entendu prendre la parole, non pas sur scène, mais pour le coup, à la Martinique pendant les événements... je vais qualifier de sociaux pour rester dans le jargon médiatique commun, et prendre la parole au milieu de la foule, et que là tu t'es dit c'était impressionnant de voir ce monsieur là en action. Et alors en même temps ça me fait vraiment penser à, c'est différent, mais ça me fait penser à la tradition griotique évidemment africaine, et en même temps dans la tension avec le français. C'est peut-être, est-ce que c'est dans cette tension-là que résiderait la spécificité de la parole antillaise?
Je pense que c'est justement dans la confrontation de ces langues-là et des cultures, en fait, qu'il y a autour. Parce qu'une langue n'a pas de sens sans culture, sans référence culturelle. Et le créole naît vraiment... Parce que le créole, c'est avant tout une langue qui permet aux colons d'être en contact avec ses esclaves qui sont interdits de français au départ. Et au bout d'un moment, ça devient la langue de transmission entre les esclaves. Souvent, j'aime bien répéter ça parce que les gens pensent en fait que les esclaves se reproduisaient entre eux sous l'habitation, c'était cool, il y avait des enfants, etc. Bon, c'était des conditions de vie très difficiles où souvent la femme qui était enceinte, soit elle le cachait, soit elle trouvait un moyen d'avorter, ou sinon elle n'arrivait pas au terme de sa grossesse et elle n'arrivait pas au terme peut-être d'une vie promise, tu vois, dans la reproduction, dans la fertilité, ces choses-là. Et donc, en fait, il y avait tout le temps comme ça des arrivages de nègres. Il fallait donc créer une transmission. Et ce cercle de paroles, cette parole-là, en fait, c'est un moyen de transmettre, en fait, les éléments qui permettent à tout un chacun déjà de s'intégrer au groupe qu'il rejoint, donc la communauté des esclaves, et puis aussi de pouvoir survivre par lui-même, parce qu'au bout d'un moment, les solidarités actives en plein jour, on a du mal à les exercer, parce que, voilà, il y a les gérants d'habitation qui disent, bon, complot chien, etc. Donc, complot nègre, c'est complot chien. Donc, on se méfiait beaucoup du fait que les nègres puissent s'entraider, puissent marcher en groupe, etc. Et la parole devient donc essentielle dans cela. Et
les différents degrés, voilà. On revient à ce que tu disais tout à l'heure, des différents degrés de compréhension aussi d'une même parole.
Ouais. Exactement. Et c'est Ina Césaire, juste pour finir sur le propos, c'est Ina Césaire en fait qui a fait un très gros travail sur les contes créoles et qui dit qu'en fait dans les contes créoles, il y avait la transmission de la ruse. Parce que pour survivre là, il fallait être rusé.
Qu'on pas lapin.
Voilà, de la faim. Parce que à un moment donné, on pouvait être sujet à la faim, donc il fallait sensibiliser aux gens à ce risque important-là. Et puis de la révolte, parce que pour moi, le conteur, le paroleur sur l'habitation, c'était le Negmaron qui était infiltré, quoi, pour la phagocyte. Il y avait ceux des mornes qui se préparaient et qui frappaient de l'extérieur, mais il y avait ceux qui préparaient ceux de l'intérieur à accepter le moment de la révolution et à les préparer à la nécessité qu'un jour, eh ben, cette communauté-là se révolte pour trouver sa liberté. Je ne vais pas dire pour retrouver, parce que il y a quand même des choses qui s'oubliaient avec le passage, mais justement passer à un autre type de dignité, et cette dignité-là, c'est d'abord construite par le mot. C'est pour ça qu'Aimé Césaire disait qu'au départ, il y a le mot.
Ce que tu disais me fait penser aussi au débat qui existe encore et qui est un peu inégalitaire sur, chez les linguistes autour du créole. Mmh. Et, alors, je suis, bon, pour différentes raisons, bien placé pour savoir qu'il y a beaucoup de créolistes, on va les appeler comme ça, mmh. qui ne sont pas antillais. Bon, jusqu'ici, tout va bien, on n'a pas... Mmh. C'est pas un problème en soi, mmh. mais c'est vrai que souvent l'analyse qui prévaut, c'est de dire, en gros, c'est les créoles des Antilles ou d'ailleurs sont des langues qui sont des abattardissements du français, des appauvrissements du français. Et pour le faire très très vite, hein. Et j'ai eu la chance, par contre, de tomber sur un livre fait par une Guadeloupéenne, une linguiste guadeloupéenne qui s'appelle Ama Mazama, et qui elle alors disait quelque chose d'intéressant, et je on tourne un peu en rond, mais je reviens à la question de l'intimité dont tu parlais tout à l'heure, mm-hmm. et qui montrait notamment, bon, d'abord que ce sont des langues qui ont des syntaxes très proches des langues d'Afrique de l'Ouest, mm-hmm. de différentes langues d'Afrique de l'Ouest, et puis surtout qu'en termes de vocabulaire, tout ce qui est le relevé de l'intime était, on pouvait voir une étymologie africaine directe avec tout le vocabulaire qui est relevé de l'intimité mm-hmm. du corps ou de l'esprit. Et là aussi, enfin voilà, ça. Pour compléter un peu le tableau de cette inscription de la parole dans une histoire, une société et une tradition. C'est une tradition, mais c'est aussi c'est une tradition vécue au quotidien.
Bien sûr.
Et dans le présent, on l'écouterait parler des heures, Malick Duranty, c'est pour ça que vous l'avez invité aussi un petit peu, Amandine.
Je crois bien.
Les Cultures Marseille qui nous propose deux rendez-vous avec Malick Duranty qui est avec nous en ce moment en direct sur Radio Grenouille. Ça se passe demain vendredi à Mille Babor à rue Consola, qui est une médiathèque alternative. Et où le public va pouvoir rencontrer Malick Duranty, mais aussi visionner le fruit de son travail avec Jérémy Gravaya. Tu peux nous en parler un petit peu, Amandine ?
Oui, alors donc Jérémy Gravaya, qui est un cinéaste en résidence donc dans notre association Peuple et Culture Marseille depuis presque un mois. Et dans le cadre de cette résidence, il mène un certain nombre d'activités. Et comme Malick était là pour 3 jours et qu'il s'était déjà rencontré il y a 2 ans lors de l'université d'été de Peuple et Culture, de l'Union Peuple et Culture, c'est vrai que vous avez des sujets communs, des points de rencontre, on va dire. Et c'est vrai que ça nous a semblé intéressant que la parole rencontre l'image. En plus, Jérémy est beaucoup sur le récit. Hein, c'est des questions qu'il traverse dans tous ses films. Donc c'est vrai qu'on a fait cette proposition. Enfin, en fait, elle est venue de toi, cette proposition, oui. de film. C'est-à-dire qu'on voulait qu'il y ait une rencontre entre deux. Et puis Malick a dit peut-être un film, ça serait intéressant.
Oui.
Et Jérémy a dit oui. Du coup, ça va être le démarrage de la soirée demain. Un peu de voir ce que vous avez fait aujourd'hui. Et puis après, il va y avoir une rencontre croisée, des échanges entre vous, des discussions. Et puis avec la salle, bien sûr, pour découvrir un petit peu tout ce que tu fais.
L'univers, l'imaginaire qui est autour de tout ça, vraiment sympa.
Alors l'entrée est libre et c'est à partir de 19h à Mille Babor, 61 rue Consola exactement. Et le lendemain, samedi 26 novembre, c'est le dernier jour pendant lequel vous pourrez profiter de la présence de Malick Duranty à Marseille, et il sera à la Cité Maison de Théâtre qui se trouve, elle, 54 rue Edmond Rostand, et pour une longue journée qui commencera avec un atelier cercle de parole à 15h jusqu'à 18h et qui sera suivi d'une rencontre littéraire à partir de 19h toujours avec Malick Duranty et le cabinet des lecteurs avec qui vous travaillez régulièrement, Peuple et Culture Marseille. Alors d'abord, je me retourne vers Malik de nouveau. Enfin, tout ça, c'est qu'une image pour la radio, en fait, parce qu'ils sont tous les deux en face de moi dans le studio. On parlait d'image. Et on parlera de radio un petit peu, Malik. J'aimerais bien savoir ton avis là-dessus. Mais d'abord, sur le film, parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'assez particulier. Donc, tu viens d'arriver à Marseille. Ouais. Vous avez marché ensemble dans la ville aujourd'hui avec Jérémy Gravaya. Et les gens vont voir le film demain. Là, il est en train de faire le montage. Oui. Il n'est pas venu exprès à Radio Grenouille. Alors, qu'est-ce que vous avez fait cet après-midi, Malik et Jérémy, en fait?
Mais en fait, ça a commencé depuis ce matin, quand même. Mm-hmm. On est vraiment dans l'instantané de la rencontre. On est autour du thème de l'exil. Et le principe, en fait, c'est qu'il filme pendant que nous marchions. Et moi, j'improvise, en fait, une parole au même moment autour du thème de l'exil. Et donc moi j'ai un zoom qui puisse prendre la parole, les atmosphères de rue. Et lui en fait il filme et bon il est aussi sous son trip de l'exil quoi, mais cette fois-ci par le regard. Et bon, je suis un peu pris dans ma tête parce que j'ai vu le premier wesh là tout à l'heure, juste avant de venir. Mm-hmm. Et je suis encore dans l'étonnement de me dire que, tu vois, parce que il sait pas de quoi je vais parler, il sait pas sur quoi vraiment je vais parler. Bon, il avait choisi plus ou moins trois lieux parce qu'il est à Marseille depuis plus longtemps que moi. Et donc, il pouvait avoir cette inspiration-là. Et donc, on était un peu... Dernièrement, j'ai écrit un texte qui s'appelait « Perdu dans le connu ». Et là, je crois que c'est l'inverse, quoi. On a dû se retrouver dans l'inconnu. Et ça donne vraiment quelque chose d'assez intéressant parce que c'est trois lieux très disparates qui sont très significatifs de Marseille. Parce que bon, il y a un pâté de maisons autour duquel on tourne, quoi. Et après, il y a un chantier sur lequel quand même on a pu entrer pour prendre quelques images. Et puis on arrive près de la mer, finalement, sur un troisième tableau. On remonte un trottoir sur l'avenue principale. Et tous ces éléments-là prennent corps autour de l'exil et en fait autour d'une parole instantanée vraiment inscrite dans le présent. Et à la fois par son regard audiovisuel et puis par ma parole en fait qui décrit quelque chose qui et ça fut vraiment assez troublant de voir que sans l'avoir cherché il y a un fil conducteur sur chacun de ces tableaux là sans l'avoir cherché il y a vraiment un rapport d'illustré à illustration de un moment la caméra prend les devants sur le message qu'elle lance en fait pour moi typiquement l'expression culturelle, l'expression artistique de la rencontre et de la mise en relation en fait de deux paroles, la parole de Jérémy avec les outils qu'il utilise et puis ma parole avec la manière dont j'utilise et puis la présence du corps. Bon, cette fois c'est le mien, mais tant pis. Il y a encore il y a la possibilité de voir les ombres, ces ombres à lui. Alors on voulait rester justement dans la simplicité, dans le dénouement dans le dénouement de la chose. C'est pas un travail purement esthétique au sens de lisse. C'est vraiment esthétique au sens de poétique. Là, il y a de la poésie, d'après ce que j'ai vu, qui est partout. Et je pourrais vraiment... Il y a eu tellement d'événements autour de cette rencontre-là aujourd'hui que je pourrais passer la nuit à raconter ce qui s'est vraiment passé.
Mais je vois ça, et là, je le dis encore pour les auditeurs de la radio, parce qu'ils n'avaient pas l'image, mais le visage de Malik Duranty est juste, illuminé de l'intérieur, complètement, quand il parle de ce film que vous avez tourné cet après-midi. Tu parlais de ton corps et de ta parole, en plus dans des rues et dans une ville que tu découvrais aussi.
Ouais. Ouais,
donc la thématique de l'exil était partie, enfin je veux dire...
J'étais dedans.
Voilà.
J'étais complètement en exil. Non, vraiment, c'est... Et je suis en plus content d'être là à Marseille, si tu veux, parce que bon, c'est une ville qui, tu vois, les gens parlent fort dans la rue... les gens sont francs et entiers, tu vois. Il y a pas, il y a moins de retenue, de style feeling, tu vois, comme on peut trouver à Paris. Les gens, c'est franco. Vas-y, tu sais direct par rapport. Tu vois, on disait hier soir, les gens, voilà, ils ont tous du caractère, quoi. Il y a pas de gens mous ici. Et c'est combocaille, moi. C'est comme si j'étais chez moi, parce que chez moi, c'est ça, tu vois. C'est tout le monde à Tafaya, tout le monde présent, quoi. Et ça, c'est bon, tu vois, devant, je vais pas dire une ville sur le coup, là, je peux me permettre de dire devant un pays où les gens sont debout, quoi, debout, raide.
Je voulais continuer avec toi, Malik, sur, parce que tu as passé un doctorat de sociologie aussi. Et donc, il y a cette, donc, tu pratiques la parole et l'improvisation, mais tu écris aussi. Donc, enfin, tu pratiques la parole écrite aussi, on va dire ça comme ça. Ou comment, enfin, ton travail, j'imagine que ton travail d'écriture est aussi emprunt de ton travail d'oraliture.
Oui, je crois que
Et par rapport aussi, pardon, c'est vrai qu'il y a la dimension un peu scientifique, même si c'est une science molle et humaine, la sociologie. Mais est-ce qu'il n'y a pas des antinomies aussi, des fois, entre peut-être ces deux approches?
Si, quand même, parce que, bon, juste pour dire, quand même, rectifier un peu, histoire de ne pas froisser les sensibilités des universitaires. Donc, je suis docteur, hein, donc je n'ai pas fini le doctorat. Okay. Et c'est en sciences politiques, même si l'approche est vraiment en sociologie politique assez poussée. Mais, si tu veux, il y a quand même dans la démarche, dans l'intention, la même intention, parce que je reste la même personne. C'est vrai que dans mon écriture universitaire, bon, je suis contraint avec les canons universitaires, etc. Donc il y a un langage, il y a une rythmique du langage qu'il me faut respecter. Je peux pas vraiment m'exprimer dans la poétique, quoi, à ce niveau-là. Ceci dit, j'écris depuis que j'ai appris à écrire. C'est-à-dire, bon, quand j'étais en sixième, moi, j'étais à l'école Toussaint Louverture à Cousinville, qui est un quartier de Fort-de-France. Et comme dans beaucoup d'écoles de Fort-de-France et beaucoup d'écoles de la Martinique, la poésie, c'est l'élément central, quoi. Et donc, je récite des poèmes, j'apprends des poèmes et je les récite. Et moi, je suis extasié par cet art-là, l'art poétique. Et donc, je décide moi-même de m'y mettre, quoi. Donc, je prends mes cahiers, j'écris pour ma maîtresse, pour la directrice, j'écris pour ma grand-mère, pour le voisinage, pour le centre culturel. Et donc, j'écris tous les jours comme ça, depuis que j'ai appris à écrire, j'écris de la poésie. Et tant et si bien, souvent je dis, beaucoup de personnes en Martinique en fait pratiquent la poésie, c'est pour ça presque j'étais très gêné au départ à me faire appeler poète, parce que j'ai tellement l'impression que tout le monde est poète aux Antilles. Et puis, comme c'est vraiment vivre le moment, tu vois, c'est mon rapport à l'écrit, c'est un peu mon rapport à la parole, parce que dernièrement on me faisait remarquer, j'écris directement mes poèmes, c'est-à-dire j'ai des cahiers, j'écris directement, je rature que très peu et je modifie que très peu mes textes par la suite. Donc c'est toujours du one shot, sauf que je les prononce pas. Et
Il y a différents rapports à l'écrit, évidemment. Voilà. Dans ce sens-là, ma question elle était très réductrice, ouais, mais... Je te laisse continuer.
Mais si tu veux, c'est je ne cherche pas forcément la performance esthétique ou ça va être joli, il va y avoir des rimes, etc. C'est vraiment de la poésie libre et c'est vraiment de la poésie de vécu, quoi. Et si bien qu'à un certain moment, j'ai vraiment l'impression de tourner en haut, en rond. Et quand je tourne en rond comme ça dans mon écrit, mais la seule solution, c'est de prendre Zion, quoi. Donc, d'aller à la rivière, d'aller à la mer, d'aller dans les pitons du Carbet, ou d'aller dans la nature là où je suis, et puis de parler. Et puis voilà, je peux parler avec le colibri qui passe, qui vient me voir tous les matins. Je peux parler à un papillon, voilà. Ou bien parler aussi aux enfants qui m'entourent, quoi. Là, j'ai une pensée, tu vois, pour mes filleuls, et pour tous les enfants comme ça, mes cousins, mes petits cousins, mes petites cousines. Parce que, il y a un état de conscience, en fait, qui m'habitait sans que j'en ai moi-même conscience véritablement. J'espère me faire comprendre. C'est qu'il fallait transmettre. Et à partir du moment où je sentais que j'avais un sentiment partagé, eh ben, je faisais un peu comme Césaire, quoi. Je devenais un peu la bouche de ceux qui n'avaient pas de bouche ou de ceux qui n'avaient pas assez confiance pour écrire le français ou pour écrire la poésie. Parce que des fois, c'est juste ça qui bloque, quoi. C'est l'état de conscience qui nous donne confiance, non pas seulement en nous, mais à l'ensemble auquel on appartient, et être sûr qu'on est dans cet ensemble-là. Et une fois que ça m'a traversé, que j'ai été sûr de ça, ben j'ai plus de problème, et la parole est venue, qu'elle soit à l'écrit, qu'elle soit à l'oral, qu'elle soit dans mon cœur, qu'elle soit par mes gestes. Mon objectif dans la vie, c'est de libérer ma parole, et donc j'avoue être très contraint par mon travail universitaire, à part, on va dire, dans la démarche du regard, parce que la recherche m'a quand même apporté, on va dire, la compréhension du regard que je pouvais produire sur la société. Et j'essaie tant bien que mal, chaque jour, chaque heure, chaque fraction de seconde, d'avoir un regard neuf et de trouver l'élément qui va m'émerveiller dans ce que j'observe, tout en étant conscient des difficultés qui parfois nous empêchent d'avoir ce regard neuf en permanence et perpétuellement et continuellement. Voilà.
et les préoccupations du sociologue en formation, donc toujours, mais du sociologue et du paroleur sont peut-être un peu les mêmes aussi.
C'est le même chemin, c'est le même chemin, tu vois. Les deux nous, l'un nourrit l'autre, l'un me nourrit de sensibilité pour mon travail et de sensibilité dans le regard, mais aussi c'est important de prendre de la distance face à l'objet d'étude lorsqu'on est sociologue. Et pour faire ça, il faut pas être détaché de la réalité des gens, mais il faut trouver une justesse sentimentale vis-à-vis d'eux pour respecter leur dignité. Et formuler ce qu'il y a à formuler en tentant non pas d'atteindre la liberté, moi je crois, pas la liberté, d'atteindre la vérité, moi je crois pas en la vérité, mais d'atteindre la réalité sur l'actuel et de comprendre que ce qu'on a vu dans la fraction de seconde précédente n'est pas forcément ce qu'il y a à la fraction de seconde d'après. Et c'est surtout en fait capter l'instant et être en présence du fait. Et c'est surtout ce qui m'intéresse en tant que sociologue. Et puis presque, bon, ma formation me permet de me faire appeler sociologue, mais j'aime souvent dire en fait que je suis devenu sociologue parce qu'on m'a nommé ainsi. Je suis pas arrivé en disant ouais je suis sociologue. C'est au fur et à mesure par ma participation au travail d'association auprès de différents organismes que les gens m'ont dit mais tiens ça ressemble à de l'analyse sociologique. Je suis allé voir et je me suis dit merde, enfin j'ai dit un jour je suis désolé mais et non mais c'est la matière écoute et j'ai constaté en fait que effectivement je pouvais cultiver un travail pragmatique qui aidait les acteurs de terrain, qui aidait parfois même les gens à comprendre leur réalité à travers des triptyques, à travers, on va dire, une disposition mentale d'analyse de la société qu'on appelle sociologie. Mais en dehors de ça, je suis pas super attaché au titre. Je suis avant tout Malik Duranty. Et je me souviendrai toujours qu'une fois, je cherchais des surnoms parce que je chattais, je chantais un peu dans des groupes de reggae et tout ça. Et puis un jour, je passe en radio parce qu'on avait fait un son pour le crash qu'il y avait eu en Martinique. Enfin, pas en Martinique, qui avait concerné beaucoup de Martinique à Maracaibo. Et je me faisais appeler Kilam à l'époque, qui est l'inverse de Malik. Et ma mère me dit... j'ai entendu une chanson, on aurait dit que j'ai reconnu ta voix, mais je suis pas sûr que ce soit toi. Je t'ai pas amené au baptême sous le nom de Kilam, mais Malik. Ouais. Et depuis ce jour-là, en fait, peu importe ce que je fais, mon identité, c'est celle de Malik Duranty, dans la lignée de ma famille, dans le respect de ma terre, tu vois, le respect de ce qu'ils m'ont donné et que je poursuis aujourd'hui, voilà.
Dans ce que tu dis, en t'écoutant et en te regardant parler, je me dis aussi... Et la parole, c'est un engagement du corps dans l'espace et vis-à-vis de ceux qui écoutent aussi autour. Oui. C'est un engagement tout court, je joue un peu sur les mots, mais j'ai l'impression que c'est aussi un engagement, en tout cas, à être à l'affût de ce qui se passe dans la société et voir aussi, à s'engager aussi.
Bien sûr, bien sûr. La parole comme la sociologie... c'est déjà une action en soi. Et elle nous prépare à une action des fois plus directe. Et j'aime le terrain, tu vois, j'aime les rues, j'aime rencontrer les gens. Et tout ça, ça me permet de faire ça. J'aime rencontrer les gens, j'aime que les gens me touchent. J'aime qu'ils me racontent, tu vois, leur vie ou leur trip, quoi, ce qui leur passe par la tête. Et pour moi, il n'y a pas de plus belle galerie, il n'y a pas de plus beau cinéma, il n'y a pas de plus beau studio que la rue, quoi. Aux Antilles, on dit la RIA. Et moi, c'est un bouc la RIA, je suis un gars de la rue. Et ça, je ne l'oublie pas, j'ai grandi dans les quartiers populaires. Et ma mère a fait ce qu'elle a pu, tu vois, pour que je sois ce que je suis aujourd'hui. Je la remercie de ça, mais culturellement, je suis un gars de la rue. Et partout où je vais, dans n'importe quel pays ou n'importe quelle ville, j'aime aller dans la rue, rencontrer les gens, voir comment ils font dans la rue, dans les quartiers populaires, c'est ça. C'est là que je suis né, un peu partout, mais dans la rue.
Et l'improvisation, alors, puisque on en parlait, hein, alors là, c'est... habilement, n'est-ce pas, j'ouvre une parenthèse. c'est encore une disposition encore autre, j'imagine, et qui dépend énormément du cadre dans lequel elle est pratiquée, évidemment. Amandine, j'ai l'impression que tu voulais intervenir, tu voulais improviser quelque chose, peut-être.
Non, mais non. Je trouvais ça intéressant de parler de l'improvisation, parce qu'il y a le cercle de parole samedi à 15h à la Cité Maison de Théâtre, et ça intrigue beaucoup. Qu'est-ce qu'on va y faire? Et ça parle d'improvisation, donc je trouvais que... c'était important de développer un petit peu ça.
Oui, en fait, l'atelier du cercle de parole, bon, c'est quelque chose qui renvoie bien sûr à la tradition martiniquaise. Et en fait, c'est ritualisé, ça colle aussi, on va dire, aux traditions orales qu'on va retrouver aux États-Unis avec le slam en France aujourd'hui, maintenant, etc. Et dans l'intention de cette parole-là, qu'on retrouve dans ces différents arts orales, excusez-moi, il y a l'intention. Et cette intention, c'est dire « je suis là ». Et donc, c'est « je suis là », c'est-à-dire ça part de moi et ça arrive au lieu où je suis. En fait, le lieu dit, c'est avant tout une communauté de personnes. Donc, c'est manifester avec cette communauté de personnes-là ce que l'on est. Et donc, au bout d'un moment, libérer la parole, c'est être bien dans son corps, être bien dans l'ensemble qu'on constitue les uns avec les autres. On renoue aussi avec le cercle, hein, qui est la figure la plus répandue dans l'humanité en termes de rassemblement. Et on crée entre nous un rituel qui va faire qu'on va créer une parole partagée, en pas valorisant, mais en permettant à la parole de chacun d'exister pour ce qu'il a à dire sur l'instant. Et donc on choisit un terme collectif qui va convenir à tout le monde. Les derniers cercles de parole que j'ai pu faire en France, c'était autour de l'homme debout. Donc par exemple, on parlait de l'homme debout, et j'aime bien dire ça à Grenoble, il y avait une dame qui avait quelques difficultés, qui est venue en chaise roulante, et au bout d'un moment, par le thème, elle a fait l'effort de se mettre debout sur ses béquilles, et ça c'était fort en termes de langage, elle n'a pas dit plus, mais juste le fait de se lever, c'était déjà quelque chose d'énorme, quoi. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, la collectivité lui a donné envie d'être autrement. Et ce autrement-là lui permettait en fait d'être telle qu'elle est réellement, une femme debout. Et c'est ça en fait, c'est réussir au bout d'un moment à construire une parole collective qui serait pas une parole à répéter de la bouche de chacun, mais que chacun trouve sa formulation qui colle avec l'instant. Et donc c'est aussi une façon de vivre le présent et de le manifester ensemble, quoi. Donc c'est dire « je suis là » et c'est pour moi vraiment au fondement même de la parole, quoi.
Ça va être à partir de 15h, de 15h à 18h, samedi 26 à la Cité Maison de Théâtre. C'est rue Edmond Rostand au 54, dans le 6e arrondissement de Marseille. Et au même endroit, à partir de 19h, c'est à une rencontre littéraire que vous êtes conviés, chers auditeurs, toujours avec Malik Duranty, l'intention de la parole. L'entrée est libre là également, hormis l'adhésion obligatoire à la Cité. Et il y aura une première partie. Donc justement, tu vas improviser, Malik, en répondant à des lectures. C'est un exercice que tu as déjà eu l'occasion de pratiquer, je crois, plusieurs fois, dont il y a quelques mois avec Gary Victor, il me semble, hein, et qu'on aime beaucoup aussi. Et il y aura une deuxième partie, slam et poésie, autour de Malik Duranty, avec des intervenants... des invités de la scène marseillaise au sens large, parce qu'il y en a qui voyagent pas mal.
Voilà. Ouais. Puis il y en a qui viennent de Grenoble aussi, exprès.
D'accord.
Katia Boutchouk, tu as déjà rencontré à Grenoble et qui te suit, qui revient samedi, qui est une jeune slameuse, poète russe.
Oui.
Et avec qui tu as déjà improvisé la semaine dernière.
Oui, on a fait une performance à Grenoble qui s'est super bien passée. C'est vraiment des moments à vivre sur l'instant, et je pense que là, ça va être vraiment, vraiment, vraiment bon, là. En plus, à Marseille, je sais pas, je me sens plutôt que... Bon, j'ai des petits moments où je suis un peu fatigué, là, mais...
Décalage horaire.
Ouais, tout ça, et puis bon, surtout l'enchaînement, parce que bon,
je fais pas...
Je rigole, t'es en tournée, évidemment, en ce moment.
Voilà. Mais je pense que le public marseillais pourra me donner la force pour... Il y a beaucoup de coïncidences comme ça qui font... On a croisé un musicien qui
Frédéric Neuf-Chérillon, qui partait à Paris présenter son album, était à la gare au moment où Malik arrivait. Il sera là samedi soir.
D'accord, oui, puisqu'il présente son album ce soir sur Paris.
Oui, tout à fait, à la Bellevilloise.
Autour de textes de Prévert. Voilà. Et puis, en tout cas, samedi, il y aura donc Frédéric Neuf-Chérillon qui sera là. Et Michauveau aussi, qu'on aime beaucoup aussi, avec son magnétophone à cassette et ses improvisations. Et Gilda et Tevenard à la batterie et aux autres instruments. j'allais dire musicien, plasticien parfait pour accompagner les improvisateurs, orateurs qui sont autour de Malik. Alors, l'improvisation, est-ce qu'il nous reste un petit peu de temps ou il nous reste très très peu de temps en fait, hein, je crois. Je me tourne vers Gilali qui n'a pas encore froncé les sourcils mais qui me dit, bon, il me fait des signes en me disant qu'il nous reste au moins deux poignées de minutes, c'est déjà pas mal. Je sais pas, est-ce que c'est très impoli de demander à quelqu'un d'improviser en fait, non. Je trouve.
Il attend que ça, en fait.
Mais en même temps, tu improvises depuis le début de cette émission, ouais, on pourrait dire. Donc, on pourrait continuer comme ça aussi. Oui. Continuons comme ça, alors, Malik.
Alors, j'entends la parole par mes pas qui résonne sur la terre. La terre, peu importe d'où elle vient, elle est toujours d'ailleurs. Et je la fais d'ici, à partir du moment où elle vibre en moi, traverse mon estomac et puis sort de ma bouche, me lue, mêlée, démêlée, démêlée en liberté, ma parole en liberté, oui, enfin trouver l'endroit où elle peut chuter dans l'oreille, et qu'elle pénètre tout le corps, qu'elle arrive au cœur, et qu'elle touche l'autre homme, enfin libéré lui-même de prononcer, oui, ce qu'il a entendu, ce qu'il a vibré, oui, ma parole ne s'arrête pas, car elle vibre dans l'instant, juste un temps, oui, de trouver que je marche, oui, à Marseille, je n'ai pas le temps pour rester ici, mais juste le temps que je passe ici, je veux vibrer autant que je peux ici, pour laisser dans les traces de l'atmosphère, celle du nègre qui ne s'arrête, celle de l'homme qui sans arrêt, oui, se fait manger par la destinée qui lui fait libérer sa parole pour dire tant, quitter tant, d'ailleurs tant, pour dire tant qu'est en France et partout dans le monde, partout où maintenant le ciel gronde, entend la nature nous dire qu'aujourd'hui la conciliation est dans l'air, oui, dans le pollen. Quelle soit la fertilité des fleurs qui nous donnent les fruits, qui nous nourrit, oui, en ton enfant te demander, avenant, avec un sourire sur les lèvres, que l'instant de la liberté soit arrivé, et que chacun enfin soit ivre de positivité, à créer l'humanité telle que nous l'avons rêvée, depuis les origines, qui n'ont cessé de recommencer, à travers le nombril de chacun des hommes, ayant trouvé leur femme comme un porc, resté attendu là, en dehors de l'exil, ceux qui savent, oui, aujourd'hui, ce que nous voulons faire de nos villes, des lieux de conciliation où enfin, nous tous, nous nous reconnaîtrons tous, enfin tous, dans l'ensemble total et global, humain. Toujours plus humain.
Malik Duranty sur Radio Grenouille en direct, et Malik Duranty à Marseille, à l'invitation de Peuple et Culture Marseille, demain soir à 1000 Babord, rue Consola, à partir de 19h, et samedi 26 à la Cité Maison de Théâtre, 54 rue Edmond Rostand dans le 6e, pour vous rencontrer et pour parler avec vous, atelier, et puis des séances d'improvisation aussi, et ça se passera sur scène même samedi 26 avec les intervenants qu'on nommait tout à l'heure. La radio, j'imagine, c'est quelque chose que tu dois affectionner, parce que c'est un instrument que les paroleurs doivent favoriser et beaucoup apprécier.
Oui, c'est ton cas. Ouais, c'est mon cas aussi, mais c'est vrai que j'apprécie aussi surtout la présence.
D'accord.
Vraiment. Mais bon, là, les auditeurs sont présents aussi, donc c'est bon, un peu d'imagination et ça va.
Ta voix est présente auprès des auditeurs. Et c'est ça qui est un peu magique avec la radio, voilà. C'est que même sans ta présence physique, la présence de ta parole les aura sans doute, en tout cas on l'espère, touchés aussi là où ils sont.
Yes.
Donc rendez-vous pour rencontrer Malik demain et samedi. Merci beaucoup Malik Duranty,
okay, merci
pour ta présence, tes paroles. Merci beaucoup Amandine Tamayo de Peuple et Culture Marseille pour être venue également et avoir fait venir Malik Duranty. Vous retrouvez cette interview sur internet www.radiogrenouille.com demain. Si tout va bien. Tu voulais ajouter quelque chose, Amandine ? Je te vois pensive.
Non, je voulais ajouter que c'était quand même la venue de Malik était l'occasion en fait, de démarrer une série de rencontres en partenariat avec la Cité Maison de Théâtre. C'est Oraliture 1, il y aura une suite en fait, avec d'autres invités qui viennent de la poésie sonore aussi, du conte. Enfin, voilà, il y aura plein de choses autour de l'improvisation, de l'écriture et de la mise en parole et en corps. En fait. Voilà, c'est un premier rendez-vous, il y en aura d'autres.
Merci encore.
Merci à tous.
Ça sera le mot de la fin. On se quitte avec Roland Brival. Encore un petit extrait de ce ABCD paru sur la réédition de son album des années 70. Et restez calés sur Radio Grenouille. Dans quelques instants, nous serons en direct de Banc Public pour les rencontres à l'échelle. Au revoir.
ABCD
oh ABCD
Tambour, 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 tamb